VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, investiture aujourd'hui du président sortant Alassane Ouattara, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le Conseil constitutionnel ayant confirmé hier sa victoire au présidentiel. Cameroun, les islamistes nigérians de Boko Haram changent de stratégie dans le pays, alors que les États-Unis y déploient des centaines de militaires et que la force sous-régionale de lutte contre les djihadistes entre en action. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Depuis quelques mois, l'on n'entend plus parler d'attaque de Boko Haram lourdement armée. D'après Sally Dairou, élite du Nord et députée à l'Assemblée nationale du Cameroun, le groupe djihadiste est toujours en activité, bien qu'ayant changé de méthode d'incursion.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas, et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Et personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf. Et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram met donc de côté les opérations d'affrontement en masse contre l'armée camerounaise pour se consacrer au pillage, à la destruction des biens et à la pose des mines. Pour le ministre camerounais de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, ce dernier type d'incursion paralyse l'économie.
Le prix du carburant frelaté importé du Nigeria et très utilisé localement est régulièrement en hausse, avec ses répercussions sur l'ensemble de la chaîne économique. Divers services publics, parapublics, privés, ainsi que des entreprises commerciales sont paralysés par les membres de la secte Boko Haram. Les échanges commerciaux avec le Nigeria ont nettement reculé.
De son côté, le ministre camerounais de la communication, Issa Tchirouma Bakari, pense que ce changement de mode opératoire est un signe de souffrement de Boko Haram dont les jours sont désormais comptés.
Je voudrais indiquer ce groupe terroriste qui de toute façon est voué à la disparition ne vise qu'un objectif dans l'immédiat, celui de répandre la peur et la psychose parmi nos populations. Mais c'est ignorer la détermination du peuple camerounais tout entier qui ne se laissera jamais prendre au piège de ce stratagème.
Pour donner une réponse à la nébuleuse, une batterie de mesures est opérationnelle, mise en place des comités de vigilance en plus de la force sous-régionale et les 300 soldats déployés sur le sol camerounais par le président américain Barack Obama. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Le pape François pourrait annuler sa visite en Centrafrique le 30 novembre si les violences s'intensifient dans le pays. C'est ce qu'annonce le Vatican. Face aux violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts depuis fin septembre à Bangui, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza préconise plus de fermeté de la part des forces internationales contre les fauteurs de troubles. On l'écoute.
Nous exhortons les forces internationales à une action vigoureuse afin que Bangui soit sanctuarisé à l'approche d'événements importants. La visite du pape et les élections doivent être vécues par les Centrafricains comme des événements unificateurs et refondateurs à vivre dans l'apaisement. Face aux dangers qui menacent la population, j'ai instruit nos forces de défense et de sécurité nationale de se joindre aux troupes internationales pour s'interposer entre les parties en conflit et frapper les récalcitrants qui persistent dans la voie de la violence.
La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Pour plus de détails sur la situation sécuritaire dans le pays, Pascaline Bangalé a joint à Bangui le nouveau ministre de la Sécurité publique, Pierre Chrysostome Sambia.
Disons que la situation sécuritaire se présente comme pas tout à fait rapportée dans les médias internationaux. On dramatise un tout petit peu, mais la réalité est celle-ci. Nous connaissons une situation préoccupante au niveau de Bangui. Le gouvernement s'investit avec l'appui de nos partenaires sur place à rétablir l'ordre et ramener la quiétude, la cohésion au sein de la population.
Y a-t-il moyen de ramener la sécurité le plus vite possible?
Vous savez que le pays n'est pas encore sorti de cette crise profonde que vous connaissez tous. La volonté du gouvernement centrafricain, elle est là, elle est présente. Tous les ministres concernés et par la sécurité et l'action sociale, l'action humanitaire s'investissent dans la recherche des voies et des moyens pour ramener la sécurité. Et toujours est-il que nous sommes limités dans nos moyens et les démarches entreprises auprès de la Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'obtenir l'allègement de l'embargo et la restitution de nos armes qui sont à la disposition des forces onusiennes. Les démarches sont entreprises et nous attendons beaucoup la décision qui sera prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le ministre centrafricain de la sécurité publique, Pierre Chrysostome, Sambia.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les deux principales coalitions d'opposition ont annoncé la suspension de leur campagne de désobéissance civile pour contester les résultats du récent référendum constitutionnel. Des détails avec Eddie Isango.
Les Fronts républicains pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, ainsi que l'initiative pour la démocratie au Congo, ont annoncé hier la suspension de leur programme d'action dans un souci d'apaisement. Ces deux coalitions de l'opposition avaient appelé à des journées villes mortes tous les lundis, jeudi et vendredi pour contester les résultats du référendum. Vendredi déjà, elles avaient renoncé à des marches pacifiques, préférant rendre hommage aux personnes tuées le 20 octobre dans la répression des manifestations. Ces violences ont fait 4 morts selon les autorités et 17 selon l'opposition. D'après les résultats annoncés mardi par les ministères de l'Intérieur, les Congolais ont approuvé à plus de 92% un projet de nouvelle constitution qui permet à M. Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
Génocide rwandais de 1994, l'association française Survie a déposé hier une plainte pour complicité de génocide au Rwanda contre plusieurs responsables français de l'époque. Le point avec John Lyndon.
La plainte contre X vise des responsables français en lien avec les crimes contre l'humanité commis au Rwanda. Elle a été déposée hier lundi au pôle génocide et crimes de guerre au tribunal de grande instance de Paris. L'association Survie doit d'ailleurs donner une conférence de presse aujourd'hui. Une enquête est déjà en cours en France sur le rôle de l'armée française pendant les tueries. Elle avait été déclenchée par une autre plainte déposée en 2005 par des rescapés qui mettent en cause l'opération turquoise. Le président rwandais Paul Kagame a souvent accusé la France et Paris a toujours démenti toute implication dans ces massacres.
Crash de l'avion de ligne russe en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a fustigé dans un entretien avec la BBC ce qu'il a qualifié de propagande du groupe État islamique qui a revendiqué la destruction de l'appareil au-dessus du Sinaï. C'est pour nuire à la stabilité et à la sécurité de l'Égypte ainsi qu'à son image, a souligné le leader égyptien hier, Lionel Gaïma.
Pour la compagnie russe Metro Jet, le crash de son appareil ne pouvait être que la conséquence d'une action extérieure. L'hypothèse d'une bombe à bord est tout à fait plausible. L'extrême dispersion des débris dans le vaste désert laisse une seule certitude aux spécialistes. L'avion s'est disloqué en plein air et n'est pas tombé d'un seul morceau. L'appareil a décollé samedi à l'aube de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh avec 224 personnes à bord à destination de Saint-Pétersbourg. Après une vingtaine de minutes de vol, il a disparu des écrans radars. Les boîtes noires ont été retrouvées. En attendant les résultats de l'enquête, trois compagnies aériennes, Air France, Lufthansa et Emirates, ont décidé de ne plus survoler le Sinaï.
Conflit syrien, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov va recevoir demain à Moscou l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour essayer de progresser vers l'établissement d'un dialogue entre Damas et l'opposition syrienne. M. Mistura vient d'exhorter les parties au conflit à instaurer un cessez-le-feu pour soutenir les efforts diplomatiques engagés lors des réunions de Vienne sur la crise en Syrie, dit Lidico.
Staffan de Mistura a plaidé hier, lors d'une conférence de presse à Damas, en faveur d'un cessez-le-feu afin de mettre un terme à 4 ans et demi de guerre en Syrie. Dans son allocution, il a insisté sur l'importance de faire des efforts pour la paix. Ce dont nous avons besoin, ce sont aussi des résultats sur le terrain, des cessez-le-feu, une réduction de la violence. Sa présence dans la capitale syrienne lui a aussi permis de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères syrien, à qui il a pu faire le compte-rendu des pourparlers de Vienne. Aucune des parties en conflit en Syrie n'a été conviée dans la capitale autrichienne vendredi dernier. Une nouvelle réunion est prévue en novembre.
La mi-novembre exactement. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.